boomerang avec celle que vous connaissez, Nicolas, pour ses délicieuses variations littéraires en BD. De Gemma Bovary à Tamara Drou, elle fait paraître demain Cassandra Dark, qui ne vous décevra pas. Sortez votre tasse de thé et vos crayons de couleur. La So British Posy Simmons est dans Boomerang. C'est parti. Conséquence directe d'un Brexit auquel personne ne pense. Appauvrissement de la première ligue. Plein de joueurs doivent partir. Alors ça, personne ne le dit, mais on vous aura prévenu. Perturbation dans tous les aéroports de part et d'autre de la Manche. Commission tout à fait désagréable lorsqu'on retire de l'argent. Galère pour écouter de la musique et pour regarder des films en ligne. Explosion des prix des Land Rover et des Mini. Pénurie de crème solaire en Grande-Bretagne. Pénurie de champagne aussi. Possible frais de port à chaque achat en ligne. Dépassement de forfait systématique. Galère pour transporter les animaux domestiques, c'est pénible. Ça. Désertification des plages de Bretagne, du sud de la France, d'Espagne, embouteillage à Douvres et à Calais, amincissement chronique de la population anglaise, nombreux cas de régime forcé face à la cuisine britannique. Arrêtons l'omerta, voyez le tableau.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sait croquer la Grande-Bretagne mieux que quiconque, à coups de crayon, de pinceau, de portraits, de bons mots, et depuis une quarantaine d'années. Elle est autrice, dessinatrice, ses variations sur les œuvres de Flaubert, Gemma Bovary ou de Thomas Hardy, Tamara Drou, ont fait de son trait si précis l'un des plus reconnus outre-Manche et dans notre pays. Son nouveau roman graphique Cassandra Dark sort demain aux éditions de Noël Graphique, et elle est l'invitée du festival Pulp à Marne-la-Vallée qui lui consacre une exposition et qui ouvrira ses portes ce week-end. Bonjour, Posy Simmons.
Bonjour, Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Pour vous, la Grande-Bretagne de l'après-Brexit, ça ressemblera à quoi ?
Le Brexit, pour moi, c'est un mal à la tête. Vraiment, vraiment. Et j'espère que vous en savoir plus que moi sur la question. J'espère bien que vous avez une boule de cristal.
Mais vous imaginez ce que serait la Grande-Bretagne sans, avec le Brexit ?
Sans alimentaire, sans crème solaire. On devient très mince parce que la cuisine anglaise, c'est comme ça. Et la Bretagne, le Provence, la Dordogne, c'est moitié vide d'anglais.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette histoire de Brexit, pour vous ?
Oh, je sais pas. C'est un conte de fées, je crois. Le point sensible, le point d'achoppement, c'était Irlande du Nord. Mais on n'a jamais parlé de ça avant le référendum. Et maintenant, ce conte de fées, c'est que le Royaume-Uni puisse avoir le nord et le sud d'Irlande sans frontières. Mais au même temps, Irlande du Nord reste intégrée dans le Royaume-Uni et séparée de l'Union européenne et du Union douanière.
Ça vous inquiète, vous, Posy Simmons ?
Oui, absolument. Je m'inquiète aussi pour les jeunes qui aiment voyager en Europe.
Alors, c'est intéressant parce que votre nouveau livre Cassandra Dark se passe dans une Grande-Bretagne où le Brexit a déjà été voté et pourtant il n'en est jamais question. Dans quelle mesure est-ce que le Brexit, pour vous, c'est un sujet d'inspiration ou c'est pas du tout un sujet d'inspiration ?
Enfin, c'est pas du tout un sujet pour inspiration.
Vous n'écrirez jamais dessus ?
Oui, au début, mais à ce temps-là, personne ne comprend rien.
Et parce que moi, je me suis dit qu'avec le Brexit, des livres comme Gemma Bovary, qui témoignent de la facilité avec laquelle les Britanniques pouvaient circuler entre la France et l'Angleterre, ben, ça allait être complètement exotique.
Oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne veux pas être dans la ligne pour les aliens à l'aéroport.
Les aliens, c'est-à-dire les étrangers, en fait. Vous ne voulez pas faire la queue avec les étrangers.
Faire la queue avec les étrangers, c'est moche.
En tout cas, vous avez toujours entretenu, Posy Simmons, depuis votre adolescence, une relation très privilégiée avec le continent et particulièrement avec la France. Et ça s'entend ce matin, puisque vous nous parlez en français. Quel a été votre premier contact avec la culture française ?
Quand j'avais 17 ans, je suis allée à Paris et j'ai pris le cours de civilisation française à la Sorbonne.
Mais vous aviez lu des livres français auparavant ?
Oui, j'ai lu à 15 ans. Il fallait lire Flaubert, il fallait lire les liaisons dangereuses, il fallait les Molières et Beaumarchais et Racine.
Mais le choc qu'a été Flaubert est très important pour vous, la lecture de Madame Bovary.
Absolument.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On était très choqués parce que le personnage de Emma, comme mère, elle était dégueulasse. Vraiment, on était choqués. Et par ses aventures aussi pour nous, parce que nous étions tout à fait innocente.
Et bien élevée.
Et pour nous, c'était très bien.
Quel genre de jeune fille est-ce que vous étiez à l'époque? Quels étaient vos rêves, Fozzy Simmons?
D'être un peintre artiste.
D'être artiste?
Oui.
Déjà?
Oui.
Et vous aviez des doutes?
Oui. Mais de faire des croquis, de faire des espèces de caricatures et des dessins humoristiques, oui. Ça me plaisait beaucoup.
Et alors, précisément, qu'est-ce qui a fait de Madame Bovary une héroïne si inspirante pour l'adolescente que vous étiez alors?
Je crois que c'était la différence, pour moi, c'était la différence entre les femmes de 19e et les jeunes filles des années 60. À cette époque, je crois qu'il fallait que nous gardions très soucieusement nos réputations, mais en même temps, on a des rêves des amours, bien sûr.
Est-ce qu'elle vous faisait rire, Madame Bovary?
Rire, pas exactement, mais j'aimais bien le personnage de Rodolphe, avec ses bottes. Mais je crois que Flaubert, il s'intéresse beaucoup aux chaussures.
Vous aussi?
Oui, moi aussi, absolument.
C'est une lecture intéressante. En tout cas, c'est une héroïne qui vous a poursuivi et à laquelle vous avez rendu hommage il y a 20 ans avec un feuilleton d'abord publié dans le quotidien The Guardian, puis sous forme de roman graphique avant qu'il ne soit adapté par Anne Fontaine en France il y a 5 ans.
Ça fait 7 ans que je suis revenu en Normandie, que j'ai repris la boulangerie paternelle. J'ai cru trouver ici l'équilibre et la tranquillité.
Vous êtes anglais?
Yeah, I am your voisin.
And this gem of Auvergne has been there, Charlie.
Oh, this is France, Charlie.
Oh. L'équilibre et la tranquillité, c'est raté. Il y a des Anglais. Devinez comment ils s'appellent.
James Bond, McDonald's.
Bovary. Lui, il s'appelle Charles et elle, Gemma. Ici, en Normandie, la même où Flaubert a écrit son chef-d'œuvre.
Moi, je préfère apprendre ces deux clubs.
Moi, quelle veut dire?
J'aimerais mieux que tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles. Les gens, ils pensent que la vie à la campagne, c'est merveilleux, mais il y a énormément d'antidépresseurs à la campagne.
Oui.
Oui, ou alors il y a le calva. Vous voulez goûter?
It's strong.
Calvin.
Et ce qui est intéressant, Fozzy Simmons, c'est qu'avec Gemma Bovary, mais aussi plus tard avec Tamara Drou, vous interrogez le fantasme du retour à la nature de certains citadins. Sur quoi repose ce fantasme de la vie à la campagne, à votre avis?
La campagne, c'est très important pour les Anglais. Je crois depuis la révolution industrielle.
Mais c'est aussi chez vous quelque chose d'un petit peu snob, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ça vous amuse beaucoup.
Oui, parce que les gens qui achètent des maisons secondaires luxueuses à la campagne, et par contre, dans les villages, c'est pas très drôle. Et surtout pour les jeunes qui s'ennuient totalement dans les abris de bus.
Ce qui vous intéresse, en fait, c'est la frontière entre les deux mondes qui se rencontrent.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous amuse chez vos contemporains, en fin de compte? Qu'est-ce qui ne manque jamais de vous faire rire?
Ah, ça, c'est très difficile à des jeux de mots, j'ai honte, mais si quelqu'un s'est tombé sur un truc de banane, ça m'a fait rire.
Le gag, oui. Il se trouve que vous avez grandi à la campagne, Fozzy Simmons. Et en quoi grandir à la campagne a fait de vous l'artiste que vous êtes aujourd'hui?
J'ai grandi à la campagne. J'ai trois frères et une sœur. Et mon père avait une ferme. Et donc, on était libres tout le temps. Mais pour moi, les BD, les comics, c'était très important. Dans le village, il y avait beaucoup de familles américaines, parce que c'est un peu après la guerre, et leur père était dans les USAF, les
La Air Force américaine.
Oui, c'est ça. Et chaque semaine, les enfants vont avec leurs parents. Il y a une base pas très loin. Ils achètent un tas de comics.
Ah oui, c'est ça, parce qu'il fallait les trouver quand même, les bandes dessinées, à l'époque, à la campagne. Ça devait pas être facile, si.
En Angleterre, il y avait beaucoup de comics pour les, oui, de anglais. Mais pour moi, les comics américains, c'était palpitant. Je crois que mon Madeleine de Proust, à 8 ans, c'est de rester sur mon dos,
ouais,
avec un comic sur mon nez, et je sens le sang de l'encre. Oh, c'est merveilleux. Et les enfants américains m'ont donné tous leurs comics, donc c'était des années 50. J'avais Superman, Spider-Man, Mickey Mouse, Casper the Ghost, Sad Sack, tous les comics. Et quelquefois, les comics défendus, horror comics.
Ah ben les bandes dessinées d'horreur. Ouais.
D'horreur, oui. Et une fois, j'avais peut-être 8 ans, j'étais en train de lire quelque chose et j'ai dit « Ah !» Et ma mère a dit mais qu'est-ce que tu lis ? Et elle a pris la comique et c'était une type qui était en train de s'écraser dans une presse à olives.
Oh, Posy.
Oui, quelle horreur.
Quelle horreur. Quelle place avait la bande dessinée dans les années 50 en Grande-Bretagne ? Comment on regardait les bandes dessinées ? Ça avait bonne réputation ou mauvaise réputation ?
Ou comme ci, comme ça. C'était, on pouvait lire, mais il faut lire vraiment des livres.
Est-ce que vos parents trouvaient que c'était abêtissant ?
Non, il était, parce que je lis beaucoup, il y avait dans la maison beaucoup de livres, des livres sur les maladies de vaches et tout ça, et de poules. Et de...
Vous voyez à quoi ça tient, en fait, ça tient à ça. Et pourtant, votre découverte de la bande dessinée, à proprement parler, ça vient, dites-moi si je me trompe, d'un hebdomadaire satirique qui s'appelait The Punch, trouvé dans la bibliothèque de vos parents. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce journal ?
C'était des punch de 19e siècle jusqu'aux les années 30, avec les dessins de Hitler dedans. Parce qu'il y a toujours une planche politique.
C'est des caricatures, en fait.
Des caricatures. Et moi, j'aimais bien, avant que je pouvais lire, j'ai vu les dessins. Et puis, dans les anciens punch, il y a toujours des petites conversations en bas. Et je voulais les lire. Et c'est comme ça, après quelques temps, je pouvais lire les conversations, les gags.
Et vous diriez que ça a eu une influence sur l'auteur de bande dessinée que vous êtes aujourd'hui ?
Oui, je crois. Un peu, oui.
Qu'est-ce que vous dessiniez à l'époque, Posy Simmons ?
À partir de 8 ans, 9 ans, j'ai dessiné des comics, peut-être d'horreur.
Ah bon ?
Oui, parce qu'il y a une qui s'appelle... Bullet, vengeance, vengeance.
La vengeance de la balle, en fait.
De la balle.
La vengeance du canon. Appelons-la la vengeance du canon, ce
Posy. Oui. Et Peggy, le personnage, elle est morte dans la troisième image. Elle
ah
est
bon
morte.
Vous avez tué votre personnage à la troisième image?
Oui.
Enfin,
oui.
Posy, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est pas possible.
Oui.
Il y a eu beaucoup de bandes dessinées que vous avez écrites comme ça, petite?
Oui, oui. Il y en a beaucoup. Avec mes frères, parce que à cette époque, les filles étaient un peu nulles. Mais moi, je peux dessiner. Et j'aime bien faire rire mes frères.
Du moins, elles étaient considérées comme nulles. Mais oui, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est intéressant parce que ce qui se dessine, c'est un certain rapport à l'humour. Et on l'entend ce matin. Qu'est-ce que vous trouvez drôle, en fin de compte, vous ?
Quelquefois, je trouve les Français c'est très drôle.
Ah, c'est vrai ?
Oui.
Moi, vous me trouvez drôle, par exemple ?
Non, très drôle aujourd'hui,
ah bon,
c'est un grand plaisir.
Ça me rassure. Mais qu'est-ce qui vous fait rire chez les Français ?
Il y a un gag en anglais. Un Français dit « Oui, je sais bien que ça marche en pratique, mais est-ce que ça marche en théorie ?»
C'est l'inverse, normalement.
Oui.
Effectivement. On parle souvent de la spécificité de l'humour britannique. Sur quoi elle repose, cette spécificité, pour vous ?
C'est un peu fou, c'est un peu... je sais pas, si on analyse, c'est mort.
Vous voulez dire que c'est plus drôle si on analyse ?
Oui, je crois oui.
Qui est le plus cruel, à votre avis, le français ou l'anglais, dans son rapport à l'humour ?
Ouh, Je crois que les Anglais sont plus polis, mais derrière la politesse, ils sont cruels.
J'allais vous le dire, je vous trouve extrêmement cruel. Et si je vous dis « don't be cruel », qu'est-ce que vous me répondez ?
Oh, c'est le chanson de ma jeunesse, j'adorais Elvis.
Ah, c'est vrai ?
Oui,
vous
absolument.
Vous avez un petit côté rock'n'roll, ça ne m'étonne pas. Oui. Question fait une chanson si spéciale pour vous, c'est la chanson sur laquelle vous dansiez ?
Don't be cruel ? Mmh. Oui, absolument, j'aime bien le rock.
Vous savez quoi, on va faire un rock alors tous les deux. Parce qu'on est comme ça, parce qu'on est mercredi aussi, on l'écoute, Elvis Presley, 1955. Vous êtes sur France Inter avec Posy Simmons, vous écoutez Boomerang, vous avez bien raison. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. But don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel. Ooh. To a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Boomerang sur France Inter.
Bon, on est quelque part entre la princesse Anne, l'actrice de cinéma, et puis une Spice Girl ce matin, avec ses yeux bleus, pleins de malice et de fougue, son carré à faire pâlir d'envie n'importe quelle habitante du 16e arrondissement de Paris, son sourire qui n'a rien à envier à celui de la Joconde. Elle a tous les charmes de la perfide Albion. Il manque plus que les scones, le breakfast tea et le doigt de Porto, avec son pull bleu et son écharpe de la même couleur, ses boucles d'oreilles en argent ce matin. La dessinatrice et autrice de BD, Posy Simmons, invitée de Boomerang, pour notamment son nouveau livre Cassandra Dark, l'histoire d'une galeriste londonienne, assez aigrie et malhonnête par-dessus le marché, qui va se retrouver mêlée à une sombre histoire. Peut-être que vous pouvez commencer par nous le décrire, ce personnage de Cassandra Dark. À quoi elle ressemble ?
Ouh, elle ressemble vraiment à Scrooge, le personnage principal de...
D'un conte de Noël, de Dickens.
De Dickens, oui. Scrooge était archétypique, avare, égoïste, et il était très mince. Par contre, Cassandra, elle est grosse, elle est misanthrope, elle est riche, elle mène une vie luxueuse. Elle pouvait vivre sans travailler.
Elle est très drôle. Comment il est né, ce personnage, Posy Simmons ?
C'était parce que je marchais beaucoup à Londres, dans les quartiers riches et les quartiers pauvres, bien sûr. Dans les quartiers riches, on voit des immeubles luxueux, mais moitié vides. On voit des immenses voitures, les chauffeurs, les boutiques absolument incroyable. On est conscient tout le temps de la richesse, de les marques extérieures de la richesse. Et par contre, dans les quartiers assez pauvres, on voit de plus en plus des mendiants, des sans-abri, des banques alimentaires.
Et vous vouliez encore travailler sur cette tension entre deux classes sociales, en fait ?
Oui, c'était la fracture sociale qui m'intéressait. Et j'ai pensé à Dickens parce que je crois les tensions sociales étaient déjà présentes dans notre temps.
Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous parlez de la naissance de ce personnage et de vous en train de regarder. Parce que je sais, Posy Simmons, que le détail est extrêmement important chez vous. Je sais que vous travaillez énormément les détails.
Oui, à partir que j'ai trouvé l'idée de mon histoire, je travaille dans un carnet sur les personnages, en train de... c'est un peu comme un casting.
Comme un casting. Mais c'est quoi un bon personnage de bande dessinée pour vous? Un personnage réussi?
Réussi, bien sûr Mickey Mouse, bien sûr Tintin, bien sûr Captain Haddock, Astérix, les personnages de Charles Burns, oui.
C'est un personnage qui existe et qui s'exprime par des détails très précis. C'est comme ça que vous travaillez?
Oui, c'était important comme les costumes de Cassandra. Au départ, elle était en béret, mais j'ai dessiné son chapka.
Sa chapka,
oui. Oui, et j'ai trouvé c'était ça isole plus du monde. Et c'est comme une casquette. Et il faisait hiver, c'est en hiver, donc elle portait un grand manteau, des bottes, c'est comme armoire.
Comment vous avez vu votre façon de dessiner évoluer avec le temps, avec l'expérience? Diriez-vous que vous avez progressé?
J'ai toujours travaillé pour la presse et dans les années 70, j'ai travaillé pour Le Guardian, je faisais un BD tous les semaines, une mi-page. C'est une famille de gauche cachemire, un peu.
Gauche caviar, dit-on aujourd'hui.
Pas exactement caviar.
Gauche cachemire? Mais qu'est-ce que c'est alors?
Peut-être c'est la même chose. Et parce que l'impression était très mauvaise, il fallait dessiner avec un stylo très épais et en vitesse. J'ai pris toujours du retard et j'étais toujours en hâte. Mais maintenant,
vous avez un stylo plus fin?
Oui.
Pour dessiner?
Oui, oui, oui.
Ce qui fait que vous avez progressé grâce au stylo.
Oui, grâce au stylo.
En fin de compte. Il paraît que vous avez dans votre bureau, en face de votre table de travail, un grand miroir. À quoi sert-il ce miroir?
C'est pas pour me regarder ou pour m'admirer. C'est quelquefois si je connais pas comment un visage qui, avec les narines frémissant, je fais...
Ah, vous voulez dire que vous faites les expressions devant le miroir?
Oui, oui.
Mais ça veut dire que tous vos personnages ont quelque chose de vous, alors, Posy Simmons?
Un peu.
Même Cassandra Dark?
Bon, je partage quelque chose. Je n'aime pas les gens en bicyclette sur le trottoir. Je n'aime pas les gens avec leur chien qui fait les crottes partout. Oui.
J'espère que ce n'est pas la malhonnêteté que vous partagez avec Cassandra. Ce serait quand même problématique. En tout cas, votre talent d'imitatrice, Posy Simmons, il ne se contente pas aux expressions faciales. Il paraît que vous imitez aussi la façon dont parlent les gens.
Oui, j'aime bien, quand j'étais petit, j'ai imité Elvis.
Ah bon?
Oui.
Et comment vous l'imitez?
In number and... c'était comme ça.
Mais quelle est votre meilleure imitation?
De la reine.
J'ai envie d'entendre la reine d'Angleterre, moi. En anglais.
En anglais?
Oui.
In these days of R&B and Bluebeat, it is most important to be as fab and as girl as you can.
Ah, je l'adore! Et vous imitez tout le monde?
Pas De Gaulle,
non, heureusement. Non. Moi, vous n'allez pas m'imiter, moi.
Oui.
Non, ah,
oui.
Vous pourriez m'imiter?
Non.
Non, mais tant mieux. Non. Ça me rassure. Parce que et si je vous demande d'imiter Simone de Beauvoir, est-ce que vous pourriez?
Non, parce que j'ai jamais entendu sa voix.
Je vous propose qu'on l'écoute alors, la voix de Simone de Beauvoir.
Ah, très bien.
On l'écoute?
Très bien.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui a abouti à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
La voix de Simone de Beauvoir, Posy Simmons, c'est cette voix que vous souhaitiez entendre. Pourquoi elle? Pourquoi Simone?
Pourquoi Simone? Son livre, Le Deuxième Sexe, ou c'est,
oui,
la,
c'est, ça.
C'est la deuxième...
Ah non, Le Deuxième
le
Siècle.
Très bien.
Le Deuxième Sexe, je viens de dire Le Deuxième Siècle.
Oui.
Le Deuxième Sexe.
Le Deuxième Sexe, c'était très important pour moi. Quand j'avais peut-être 18 ans, j'ai lu ce livre en anglais. Et c'était, si vous voulez, un soulagement.
Ah, c'est vrai?
Oui, parce qu'elle parlait de l'histoire des femmes depuis Ève et Adam, et jusqu'à les années 40, je crois. C'était écrit en 1945, je crois.
Ça a été une révolution pour vous?
Oui, absolument, parce que je crois, moi, j'étais de la génération de filles qu'il faut abandonner notre travail quand on se mariait. Mais en même temps, on avait l'opportunité de poursuivre les cours à l'université. Mais pour moi, c'était très déroutant parce qu'il y avait ce période brève quand on peut réaliser son ambition. Et puis, rapidement, sur l'horizon, il y avait la perspective du mariage et de consacrer pleinement dans le rôle d'épouse, de mère et de femme d'intérieur.
Ça a pu être difficile pour vous d'être une femme dans ce métier, dans ce milieu, Posy Simmons?
Oui, parce que j'avais des ambitions d'être, de faire quelque chose et à cette époque, on se marie à 21 ans. Ma sœur, elle s'est mariée, à 20 ans.
En France, vous avez trouvé les mêmes obstacles quand vous vous y êtes rendue?
Oui, un peu. J'ai resté avec une famille. Il y avait deux sœurs qui sont traitées comme des vieilles filles, qui avaient peut-être 30 ans, assez jeunes.
Quelles sont les premières images que vous gardez de votre premier voyage en France, Posy Simmons?
Ah, c'était la première fois, j'avais 17 ans, c'était la première fois que j'ai quitté Angleterre. Pour moi, c'était incroyable. Gare Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare avec le tabac, les pissotières.
Bah, dis donc, Posy, vous êtes... Non, si, mais vous alliez dans le tabac et les pissotières, on n'a pas la même expérience de la gare Saint-Lazare. Hein. Franchement, c'est un voyage qui vous a transformé ou pas? Sérieux?
Excusez-moi, je ne peux pas... Parce que j'ai habité à la campagne, j'étais en pension à l'école à la campagne. J'ai jamais entendu le son des talons hauts sur le trottoir la nuit. Pour moi, c'était absolument extraordinaire d'entendre les gens dans la rue.
Qu'est-ce qui a le plus changé en vous depuis ces années-là, la jeune fille que vous étiez, à votre avis?
Je suis devenue londonienne, donc la ville, j'habite la ville et je comprends bien comment ça marche. Mais reste en moi toujours, j'aime la campagne.
Merci infiniment, Posy Simmons, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Cassandra Dark, votre dernier livre, ainsi que So British, l'art de Posy Simmons, paraissent demain aux éditions de Noël Graphique. Je rappelle également que le festival Pulp de Marne-la-Vallée, dont vous avez dessiné l'affiche, ouvre ses portes ce week-end, qu'il vous consacrera une exposition à la ferme du Buisson et que vous y serez dès vendredi pour une rencontre avec Catherine Meurice et le lendemain pour une masterclass. Que de réjouissance, en plus d'épissotière. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu.
Bleu sur France Inter et tout de suite Sonia De Villers, l'instant M.